J'aimerais parler sur le rafraîchissement de Dieu dans le désert, dans Ésaïe chapitre 32, verset 14. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Amen. C'est surtout sur la fin du verset qui dit que le désert se change en verger et le verger soit considéré comme une forêt. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Quand on regarde vers les déserts, on sait que ce sont des zones arides, il n'y a rien qui pousse, c'est sec, il fait très chaud. On connaît les déserts de sable, notamment plus de 50 degrés. Je crois que c'est en Libye qu'ils atteignent 58 degrés. Donc, vous voyez, à Toulouse, on n'est pas si mal que ça finalement, avec nos 40-45 degrés. Il y a des déserts de glace, l'Antarctique. Alors là, c'est l'inverse. Il fait tellement froid qu'on ne peut pas y vivre, on ne peut pas survivre. Il fait moins 89 degrés. Donc on a des déserts de glace, on a des déserts arides, on a des déserts dans nos vies qui nous font souffrir aussi. Parce qu'on parle, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, quand quelqu'un a une grosse épreuve et qu'il est mis de côté, on dit il fait la traversée du désert. La traversée du désert. C'est un grand moment de difficulté, de souffrance, de mise à l'épreuve, de rejet. Et qui n'a pas connu des déserts dans sa vie ? On a tous traversé des déserts plus ou moins longs. Personne n'aime ça. On aime tous que ça soit le plus court possible, le moins chaud possible. Mais nous ne choisissons pas. En fait, les déserts nous sont imposés. Ils font partie de la vie. Et il faut les traverser. Alors, jamais nous ne sommes vraiment préparés. Jamais nous ne souhaitons ces choses. Mais voilà, ils font partie du parcours. Alors, c'est là que nous avons recours à la parole de Dieu parce qu'elle est pleine de promesses pour nous aider à traverser les déserts de nos vies. La parole ne dit pas qu'il n'y aura plus jamais de désert, mais elle dit qu'on pourra traverser les déserts en comptant sur sa grâce. Le désert va se changer en verger et le verger en forêt. Ça, c'est le miracle que Dieu peut faire dans nos déserts. Il y a quelques années de cela, on a reçu un homme qui s'appelle Elias, qui a fait une expérience extraordinaire. Il n'était pas chrétien à la base. Il avait une religion plutôt catholique, mais non pratiquant. Et puis, il s'est marié avec une femme qui était musulmane. Et donc, petit à petit, il s'est intéressé à cette religion. Et du coup, ils ont déménagé en Afrique du Nord, dans un pays d'Afrique du Nord, je ne sais plus lequel. Et là, il a commencé à grandir dans la religion de l'islam, alors qu'il ne connaissait pas du tout. Il était vraiment catholique non pratiquant, il s'est mis dans l'islam. Mais il s'est tellement mis dans l'islam qu'il s'est converti. Il est devenu membre de la communauté, de cette communauté islamique. Et il a tellement bien grandi qu'il a fait des études pour devenir imam. Et il est devenu imam. Il est devenu imam. Et un jour qu'il... il se déplaçait, alors je ne sais plus par quelles circonstances, il s'est retrouvé dans un couvent. Mais alors lui, les couvents, en tant qu'imam, c'était presque le péché partout. Et sur une table de ce couvent, il y avait quelqu'un qui avait laissé une petite Bible qu'il avait laissée là. Et bien il a volé la Bible. Il est parti avec la Bible, chez lui, et en cachette, il a commencé à lire la Bible. Il ne connaissait pas du tout la Bible. Il ne connaissait que le Coran. Et en lisant la Bible, il a rencontré Jésus. C'est incroyable son histoire. Il a rencontré Jésus. Il ne connaissait rien à la religion évangélique ou protestante ou quoi que ce soit. Il ne connaissait que la Bible et son arrière-plan catholique. Eh bien, il a rencontré Jésus et il s'est converti. Mais une conversion radicale. Il en a parlé à son épouse, mais ça s'est très très mal passé. Son épouse ne voulait pas du tout de cette religion. Et il a commencé à avoir des grands conflits. Et à un moment donné, son épouse en a parlé à ses fils. Mais ses fils, ils étaient radicalisés. Ils ont cherché leur père et ils voulaient tuer leur propre père. Et donc, pour sauver sa vie, parce qu'en plus, il racontait qu'il avait un fils dans l'armée, donc il était armé, ils étaient habitués à tuer. Et donc, pour sauver sa vie, il a dû fuir. Alors, il est parti seul, et il raconte ça, qu'il n'avait qu'une gourde. Quand il est parti en précipitation, il a pu prendre une gourde d'eau, et il est parti dans le désert. Eh bien, il a raconté qu'il a traversé ce désert, ça a duré plusieurs jours, avec une gourde, et il disait qu'il buvait, il buvait, il buvait, et que l'eau ne se vidait pas. C'est incroyable son histoire. Il a traversé le désert, alors je ne sais plus combien de jours, hein, si c'était 4, 5, 6 jours, mais plusieurs jours, l'eau ne se vidait pas. Lui-même, il ne comprenait pas. Il vivait un miracle. Et quand il est sorti du désert, il a réussi à rejoindre la France, je ne sais pas par bateau, comment il a fait. Et en France, donc là, il a dû se séparer de sa famille, en fait, parce que sa famille cherchait à le tuer, tout simplement. Donc, pour sauver sa vie, il a dû refaire sa vie complètement en France, sans retourner là-bas. Et en fait, il ne connaissait rien au christianisme et tout ça, donc il avait juste vu dans la Bible qu'il y avait des églises. Alors, il a cherché une église, et la première église sur laquelle il est tombé, c'est une église orthodoxe. Et il est allé frapper donc à la porte de l'église orthodoxe et il a dit, voilà, j'ai rencontré Jésus, je voudrais être baptisé. Alors ils l'ont pris un peu pour un farfelu, alors ils ont demandé son témoignage, il a raconté, alors ils ont vu que c'était du sérieux. Et ils n'avaient pas de quoi le baptiser, alors il a dit, bah, là il y a une poubelle, vous pouvez la remplir d'eau puis vous me baptisez dedans. Ben, ils l'ont fait comme ça. Il s'est fait baptiser chez les orthodoxes. Vous savez que les orthodoxes, ils baptisent par immersion. Il a été baptisé par immersion chez les orthodoxes. Et puis petit à petit, il a été amené à rencontrer d'autres églises, et puis il a rencontré les églises évangéliques. Et puis là, il a fait son parcours, il est devenu serviteur, il a ouvert des églises, enfin, il a un témoignage extraordinaire. Mais pour vous montrer qu'il a traversé un désert et qu'il a été surnaturellement protégé avec cette gourde qui ne se vidait pas. Ça, c'est vraiment le miracle de Dieu. Dieu nous donne une gourde dans le désert qui ne se vide jamais. Sa présence, son esprit, nous sommes renouvelés, vivifiés. C'est le miracle. On traverse le désert. En fait, il aurait dû mourir dans son désert. Il n'y avait aucune chance, humainement parlant, pour qu'il sorte vivant de ce désert. Il savait lui-même, en fait, quand il est rentré dans son désert avec cette gourde, il savait en fait qu'il allait mourir là. Mais il préférait mourir là, loin de sa famille, plutôt que d'être tué comme ça. Donc il l'a fait par la foi. Et puis Dieu a pourvu. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est d'abord le désert du doute par lequel on peut passer. Je prends ce récit dans l'évangile de Marc chapitre 9 d'un père qui vient vers ses disciples pour son fils qui est possédé d'un mauvais esprit. En fait, c'est un esprit qui contrôle son fils pour le pousser dans le feu ou dans l'eau. On pourrait dire que c'est un esprit de suicide qui le pousse à la mort. Il faut savoir que derrière les gens qui se suicident, c'est un esprit de mort qui les pousse à se suicider. Parce que se suicider, ce n'est pas normal. Un être humain normalement constitué ne va pas se suicider, il va chercher à vivre. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se jette par la fenêtre, c'est qu'il y a un esprit qui le pousse à se donner la mort, à se suicider. C'était le cas de cet enfant. Donc, la possession prenait le contrôle de la volonté de l'enfant et le poussait à se donner la mort. Ça nous montre que l'ennemi, il veut détruire nos enfants. On a parlé dimanche de ce pharaon qui voulait tuer tous les enfants, les premiers-nés, donc tous les enfants mâles du peuple d'Israël. Bien, ça, c'est une image du diable qui veut tuer spirituellement nos enfants. Les disciples ont prié pour cet enfant et malheureusement, il n'a pas été délivré. Il était toujours animé de cet esprit de suicide. Donc, le père aurait pu être désespéré, dire, ben voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai amené mon fils aux disciples de Jésus, ils n'ont rien pu faire. Il aurait pu dire, si même les disciples ne peuvent rien faire, qui pourra faire quelque chose? Il n'y a plus rien à faire. Mais il a une autre idée, et c'est celle que nous devons avoir, frères et sœurs. Il a dit, ben les disciples n'ont pas pu, mais moi je vais aller voir Jésus. C'est ça que nous devons faire. Nous devons aller frapper à la porte de Jésus directement. Et il a dit, si tu peux quelque chose, il dit au Seigneur, si tu peux quelque chose, viens et secours. Et Jésus a ressenti que cet homme, était dans un désert d'incrédulité. Et il va lui montrer le chemin pour sortir de ce désert. Marc chapitre 3, verset 29. Il lui dit, mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Donc à la réponse, si tu peux, est-ce que tu vas pouvoir, Jésus, au doute, Jésus répond, tout est possible à celui qui croit. Jésus répond par la foi. Au doute, Jésus répond par la foi. C'est dans la foi que nous devons nous tenir. Il nous faut la foi pour sortir du désert. Et il va montrer à cet homme comment il peut sortir du désert du doute pour arriver dans la foi, dans le miracle. L'homme veut bien croire. Mais il dit, je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Parce que l'incrédulité est attachée au cœur de l'être humain. Et Marc 9, 24, c'est ce verset que je dis, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Souvent nous voulons faire le bien, mais voyez, il y a comme une force qui nous retient en arrière. Cette force, c'est la puissance d'attraction du doute. Vous faites un pas de foi, vous dites je crois, c'était bien parti, mais il est attaché à son incrédulité. Il faut être délivré de cela. Alors Jésus va travailler sur l'enfant, il va prier sur l'enfant. L'esprit qui l'agitait va sortir de l'enfant, il va hurler, il va tomber par terre avec une grande violence, dit la Bible. Le démon l'a agité une dernière fois, et en fait l'enfant était tellement agité, il tombait par terre, il écumait. Les gens croyaient qu'il était même mort, l'enfant. C'était la dernière trace que l'esprit voulait laisser sur l'enfant, c'était la mort. Mais la vie a été plus forte parce que Jésus a relevé cet enfant et il était complètement libéré de la puissance des ténèbres. Bien des gens sont dans ce désert du doute depuis l'enfance. Pourquoi ? Parce que peut-être ils sont allés à l'église quand ils étaient petits, ils ont entendu que Dieu existe, mais à l'école on leur a dit que Dieu n'existe pas et que ça ne sert à rien de croire. Et donc, avec les amis, les connaissances, ils se sont éloignés de Dieu. Et maintenant, ils n'arrivent plus à croire en Dieu. Ils sont devenus rationalistes. Comme on le dit souvent, des fois quand on discute, les gens disent « Ah oui, mais moi je ne crois que ce que je vois. » Et on est devenu rationaliste. Mais Dieu nous a créés, non pas pour être rationaliste en fait. L'être humain a été créé pour croire. Et s'il ne croit pas, il manque quelque chose dans sa vie. Parce qu'on a été créé corps, âme et esprit. Et si on ne s'occupe pas de son âme, de son esprit, donc on s'occupe que de son corps, on est rationaliste, il y a une partie de notre vie qu'on ne s'occupe pas. Et on va être malheureux, parce que rien ne peut combler ce vide si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas en Jésus, eh bien il y a un vide dans votre cœur que vous ne pourrez pas combler. Et on peut comprendre le désespoir de ce monde, de nos citoyens contemporains, qui ne connaissent pas Dieu, et bah, qui n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'espoir. Ils voient bien qu'il y a des difficultés, ils voient bien que la vie va vers la mort, en fait. Et si vous n'avez pas d'espoir, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il n'y a plus rien, donc il n'y a pas d'espérance. Et puis il y a des maladies qui frappent, il y a des gens qui sont malmenés, il y en a qui sont attaqués, il y en a qui meurent. Enfin, c'est quelque chose d'assez violent. Et donc si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'avez pas mis Dieu dans votre vie, il y a une partie de vous qui souffre dans un désert loin de Dieu. Alors on arrive maintenant au deuxième type de désert que le Seigneur veut nous faire sortir, c'est le désert de la désillusion. Quand on voit les deux disciples qui vont à Emmaüs, c'est dans Luc chapitre 24, on a ici le récit des deux disciples d'Emmaüs, on sait que l'un des deux s'appelait Cléopas. Et alors qu'ils partaient de Jérusalem pour aller à Emmaüs, ils s'entretenaient l'un et l'autre sur ce qui s'était passé à Jérusalem. En fait, Jésus avait été crucifié quelque temps avant, 3 jours avant. Ils étaient découragés. Ils n'avaient pas entendu parler de la résurrection. Pour eux, Jésus était mort. Et donc, c'était des disciples déçus. Déçus dans la désillusion. Alors qu'ils sont là négatifs en disant « Ah oui, Jésus était un prophète, il était puissant en parole et vraiment, on croyait vraiment que c'était lui le Messie. » Alors qu'ils parlaient comme ça de manière découragée, il y a Jésus qui se joint à eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Et Jésus leur demande la raison de leur tristesse. En fait, le découragement était tellement puissant en eux qu'ils ne reconnaissaient même pas Jésus. Mes frères et sœurs, si vous avez le découragement qui domine dans votre vie, vous allez devenir aveugle spirituellement. Vous n'allez même pas voir que le Seigneur vient à votre rencontre pour vous soutenir. Vous deviendrez aveugle comme ces deux disciples. Et les deux disciples avaient tellement mis leur espoir en Jésus. Pour eux, c'était un prophète. Il devait être le Messie, puissant en parole. Les pharisiens l'avaient condamné. Il était mort avec deux brigands, donc il était considéré comme un brigand. Et ils expriment leur désillusion dans Luc 24, verset 21. Ils sont dans ce désert-là. « Nous espérions que ce serait lui, Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Voilà le désert dans lequel nous vivons parfois. C'est la désillusion. On est déçu. Dieu n'a pas agi. Dieu n'est pas intervenu comme on pensait. Et on se sent abandonné. Pour sortir de ce désert, comment va opérer Jésus ? Il va leur ouvrir les yeux. Au moment du repas, ils vont prendre le pain et il va rompre le pain. Et au moment où ils partagent le pain avec eux, leurs yeux se sont ouverts. Là, ils ont reconnu Jésus. Ils sont sortis de ce désert de la déception, de la désillusion où ils se sentaient abandonnés. Alors qu'ils avaient perdu la joie, l'enthousiasme. Et quand on est dans ce désert-là, on n'a plus envie de servir, on n'a plus envie de venir à l'église. Peut-être qu'on pense qu'on s'est trompé. Mais ça, c'est un problème de vision. Et Dieu veut nous redonner la vision. Il a ouvert les yeux à ses deux disciples. Vous voyez, c'était juste une question de vision. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne le voyaient pas. C'est quand même triste. Un chrétien qui n'a plus la vision. Jésus est là, mais le chrétien ne le voit pas. Si vous avez perdu la vision, en fait, vous avez perdu le sens de la marche. Et Satan se déploie pour aveugler les gens dans 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, alors le Dieu de ce siècle ici c'est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez, une des grandes activités de Satan, ça consiste à aveugler, à faire perdre la vision, déjà. Il le fait pour ses non-croyants. Il aveugle leur intelligence, mais il le fait aussi pour les croyants, pour empêcher leur vision, pour qu'ils ne voient pas Jésus, pour qu'ils pensent que Jésus les a abandonnés. Pourtant, Jésus fait route avec ses deux disciples. Ils ne le voient pas. Et donc, le diable travaille à ça. Certains sont tellement déçus de la religion, mais ils ont été aveuglés, parce que Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. En réalité, il est venu pour bâtir une église et être en relation avec Dieu. Il a voulu que nous puissions entrer en relation avec Dieu. Voilà ce que Jésus a voulu faire. Il n'a pas voulu créer toutes ces religions. Donc certains sont déçus de la vie chrétienne. Je connais un chrétien qui m'a dit « Oui, pasteur, depuis que je suis chrétien, j'ai que des problèmes. » Mais non, on est chrétien, il y a des problèmes, mais Dieu va nous aider à traverser les problèmes en comptant sur sa grâce. Il ne faut pas voir qu'il n'y a que des problèmes. Ça veut dire qu'on a perdu la vision. On ne voit plus Jésus. On voit les problèmes. Oui, peut-être que vous avez été déçu des autres. Peut-être aussi rejeté, trahi, méprisé. Ça, c'est la vie. Ça fait partie du chemin, du désert. Eh bien, sachez que le Seigneur a un plan pour vous. Il désire vous ouvrir à nouveau les yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les yeux des disciples se sont ouverts ? Ils ont retrouvé la passion parce que leur cœur s'est réchauffé. Le texte dit « leur cœur se mit à brûler ». Quand on a perdu la passion, on n'a plus le cœur à faire les choses. Et c'est triste parce que ça devient là une religion morte. On vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église, on chante parce qu'il faut chanter, on prie parce qu'il faut prier. Mais il n'y a plus la passion, le cœur n'est plus enthousiasmé. Et donc, s'il n'y a plus la passion, c'est qu'il n'y a plus la vision. Il faut ranimer la vision pour que cette passion, comme ses disciples, elle revienne dans leur cœur. Et si c'est votre cas, vous pouvez prier le Seigneur. « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie à nouveau ta gloire, que je contemple ta présence, ta puissance, pour que mon cœur se mette à brûler. » Et qu'est-ce qui s'est passé quand leur cœur s'est mis à brûler ? Ben, ils sont repartis vers les autres disciples qui étaient découragés. Et ils étaient pleins d'enthousiasme et de foi, d'espérance pour leur dire, mais nous avons vu le Seigneur, il est réellement ressuscité. Et il a communiqué, ils ont communiqué l'espérance. Voilà le témoignage de l'Église. Quand nous avons la vision, nous avons la passion et nous pouvons témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Les deux disciples étaient transformés parce qu'ils étaient dans ce désert de la désillusion. Ils étaient secs, ils étaient vides. Et si notre cœur est devenu sec, eh bien Dieu peut le visiter et à ranimer notre vision. Si aujourd'hui c'est la désillusion, demandons à Dieu de toucher nos yeux pour le voir et le contempler à nouveau. Vous voyez, comme Jean dans l'Apocalypse, il écrit qu'il a vu Jésus dans sa gloire, il le voyait avec transfiguré, avec cette majesté, cette gloire. C'est une grâce qu'il a eue de voir Jésus dans toute sa puissance. Et que Dieu nous ouvre les yeux. Troisième désert, c'est le désert de la solitude dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Il s'agit ici de la piscine de Bethesda qui était bien connue parce qu'on y amenait tous les malades afin que le premier qui se jetterait dans l'eau, ben, il serait guéri. Et c'est ce qui se passait, il y avait un ange qui venait agiter l'eau et quand l'ange venait, eh bien, les plus valides pouvaient y arriver. Donc le premier parmi les plus valides se jetait dans l'eau et il était guéri. C'était bien, mais il n'y en avait qu'un qui était guéri à la fois. Finalement, c'était injuste pour celui qui ne pouvait pas se déplacer parce que celui qui était plus valide, eh bien, il avait plus de chances d'être guéri que celui qui n'était paralytique. Et justement, Jésus s'approche d'un homme paralytique depuis 38 ans. Et il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Alors Jean chapitre 5, verset 7 dit, « Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, » donc lui il faisait son effort pour y aller, mais il était tellement lent, « un autre descend avant moi. » Et oui, c'est le premier qui gagne, le plus rapide, le plus fort en fait. C'était le plus fort qui était guéri. C'était vraiment une injustice parce que dans ce système-là, plus vous êtes malade, moins vous avez de chance d'être guéri parce que vous n'arrivez jamais le premier. Donc cet homme, il dit, j'ai retenu cette parole au verset 7, « Je n'ai personne. » Et c'est terrible d'en arriver à dire, « Moi, je n'ai personne. Je n'ai personne à qui parler, je n'ai personne à qui me confier. Je suis seul. » Cet homme souffre de solitude. Il n'y a personne qui vient l'aider à faire ce pas. Et Jésus a vu la souffrance morale de cet homme. Il était à la fois diminué physiquement, mais moralement affaibli. Et il a pris du temps pour lui. Vous voyez, il a eu la compassion, il a parlé avec lui. Cet homme, il avait besoin de contact. Il avait besoin de quelqu'un qui lui parle. Et finalement, cet homme n'a pas eu besoin de se jeter dans l'eau ou que quelqu'un le pousse dans l'eau pour qu'il soit guéri, puisque Jésus lui a donné une parole d'autorité. Jésus est tout puissant. Il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que Dieu avait un plan différent pour cet homme. Ce n'était pas de se jeter dans la piscine comme les autres, mais c'était une parole d'autorité. Et c'est la parole de Jésus qui a créé le miracle. Cet homme crut la parole de Jésus, il a été guéri à l'instant même, sans même une séance de rééducation, parce que vous imaginez, 38 ans, vous êtes alité, vous n'avez pas la possibilité de marcher comme ça du jour au lendemain, il faut faire une rééducation. Vos muscles, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Tout a été restauré dans son corps d'une manière miraculeuse. Notre Dieu est bon. Il peut guérir d'une manière totale quelqu'un qui a été alité 38 ans, qui se met à marcher. La solitude, c'est un fléau dans notre société moderne. C'est vrai qu'on est à l'époque de la communication. Je discutais avec une personne il y a quelques temps et elle avait 3 téléphones portables sur elle. Elle était hyper connectée. Et malgré qu'on est tous très très connectés, on a vraiment besoin de contact humain. De contact humain avec des vraies personnes, pas des gens à l'autre bout du monde, par Internet. On a besoin de relations. Parce que le phénomène de solitude, il ne fait que s'amplifier. Même si la communication augmente, et c'est très bien, c'est des bons outils, mais finalement, ça ne remplace pas le contact avec les autres, ce besoin de parler, d'être écouté, de partager. Et aujourd'hui, ça devient un problème parce que ben, y a ce manque de communication et on parle de besoin de désintoxication digitale. C'est-à-dire que ça a pris une telle place dans la vie de certains qu'ils n'arrivent plus à communiquer finalement. Ils ne communiquent que par les outils téléphone, internet, et ils n'arrivent plus à communiquer. Et ça, ça crée un malaise. La solitude génère une forme de souffrance. On a tous des besoins émotionnels. On a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé, on a besoin de partager. Et Jésus vient vraiment combler ces besoins. Et il n'y a que lui qui peut le faire finalement pleinement. Parce que même si nous avons encore des contacts avec les uns et les autres, même si nous avons une épouse, une famille, des enfants, on a besoin encore de cette communication avec Dieu et d'être rempli de Dieu qui comble vraiment notre cœur. Et puis le dernier point, c'est le désert de l'insatisfaction. Un autre désert par lequel nous pouvons passer, c'est le peuple d'Israël. Il a traversé 40 ans de désert entre l'Égypte et Canaan. Et 40 ans, eh ben, ils se plaignaient tout le temps. Ils n'étaient pas contents. Dieu leur donnait la manne. Dieu leur donnait des cailles. Dieu pourvoyait leurs besoins. Et ils se plaignaient. Alors, psaume 78, verset 30 dit ceci. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils n'avaient pas encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Il y a eu un jugement sur le peuple parce qu'il se plaignait de Dieu. Il se plaignait de la manne. Il se plaignait des cailles. Il en avait assez de cette misérable nourriture. Il voulait retourner en Égypte. Enfin, c'était l'insatisfaction. Le peuple pourtant avait tout. C'était quand même la nourriture de Dieu, quand on parle de la manne. C'était bien la nourriture de Dieu qui tombait du ciel. C'était quand même précieux. Ils avaient reçu les 10 commandements et ils étaient insatisfaits. Si vous n'arrivez pas à vous satisfaire en Dieu, en fait, comme ce peuple, si vous n'êtes pas satisfait de ce que Dieu vous donne, la manne, l'écaille, tout le nécessaire, les 10 commandements, eh bien vous ne serez jamais satisfait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous satisfaire vraiment. Vous serez insatisfait au travail, vous serez insatisfait dans votre foyer, vous serez insatisfait malgré le confort, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut combler vos cœurs. Des fois, on reçoit des missionnaires, on voit dans quelles conditions ils sont, sans confort, sans tous les avantages qu'on a ici, et pourtant, ils sont bien, ils sont heureux de servir le Seigneur, ils font la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a Dieu dans leur vie. Il y a un moyen de sortir de ce désert de l'insatisfaction, c'est de laisser Jésus remplir nos cœurs et d'entrer dans la louange et la reconnaissance, l'adoration. C'est le moyen de sortir de ce désert-là et c'est ce que nous devons faire. Alors on va conclure, il y a toujours une solution à tous nos besoins, quels que soient les déserts que nous traversons. Et peut-être si on n'est pas dans un désert, ben gloire à Dieu. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, on peut tomber dedans aussi, on peut être dans une traversée assez longue, que ce soit le doute, la désillusion, la solitude, l'insatisfaction. Et puis quand on sort d'un désert, ça peut durer un certain temps, mais il y a un autre désert derrière. Donc on sait très bien que c'est jamais fini, il va falloir continuer à combattre, il va falloir continuer à avancer en comptant sur la grâce de Dieu. Mais rappelez-vous que Dieu change le désert en verger, et le verger en forêt. Ça, c'est la grâce de Dieu dans le désert. À première vue, ça paraît impossible, mais pour Jésus, ce n'est pas un problème, le désert, parce que Jésus donne la vie à ce qui est mort. Jésus crée des rivières dans le désert. Il apporte la vie dans le désert. Dieu est la source même de la vie. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole qui nous montre combien tu as tensionné, combien tu as pourvu pour chaque sorte de désert, Seigneur, des solutions. Et combien, Seigneur, tu es fidèle pour intervenir et tends encore ta main d'en haut pour nous arracher au danger et pour nous permettre de traverser ces déserts, Seigneur, en comptant sur ton secours, ta grâce. Nous savons que tu es là, Seigneur, tu es fidèle, même si nos yeux ne te voient pas. Les yeux de notre cœur, Seigneur, te voient par la foi. Et nous savons, Seigneur, que tu ne nous as pas abandonnés, mais que tu es toujours fidèle. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, de nous encourager à être fidèles dans tout ce qui concerne ta maison, de ranimer la vision l'enthousiasme, la foi, de sortir de ces déserts de, où on se plaint, et d'entrer, Seigneur, dans la reconnaissance, dans la foi, dans le zèle pour les choses de ta maison. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire en toutes choses. Tu es fidèle et tu as prévu pour chacun le moyen de sortir de toutes les situations. Alors nous te confions chacune de nos vies, chacun de nos besoins, en te disant à toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que deux ou trois personnes encore prient le Seigneur, nous attendons à Dieu. Alléluia.